Oui, nous avons certains qui nous suivent de loin. Ils ne sont pas en direct par Skype, mais comme je disais tout à l'heure à mon frère Koulibaly, cela est en train de transmettre en direct aussi sur l'Internet. Alors, s'il y en a qui ne sont pas, ils ne sont pas capables, ils n'ont pas la capacité d'avoir Skype, ils peuvent quand même, s'ils ont un ordinateur et ils peuvent brancher à l'Internet, ils peuvent nous suivre aussi en direct. Donc, seulement, il n'y a pas d'échange. Ils peuvent simplement écouter. Alors, si vous avez des amis qui sont dans ce cas-là, peut-être peu éloignés, c'est aussi une manière pour eux de suivre avec nous. Bien, nous allons prendre nos Bibles et, comme la semaine passée, je suis ici simplement pour diriger nos pensées selon ce que le Seigneur nous donne sa direction, mais s'il y a aussi des pensées qu'il vous donne au fur et à mesure, il faut simplement m'arrêter et partager ça aussi parce que nous savons que cette vérité de la Bible n'appartient pas à un seul homme, mais que c'est l'Église, c'est l'ensemble de ceux que Dieu le Père a élu et que Christ a racheté et que l'Esprit a appelé, qu'il donne, il dirige selon la vérité. Et je remercie le Seigneur que nous avons dans nos mains les Saintes Écritures, les Écritures qui sont inspirées de Dieu et avec son Esprit en chacun de nous et les yeux ouverts envers Christ, c'est lui qui est la clé des Écritures. Et c'est son esprit qui révèle Christ à travers les Écritures. Et donc, ça n'appartient pas à un seul homme ou bien une dénomination quelconque, mais la vérité est en Christ. Alors, aujourd'hui, je voudrais étudier avec vous dans la première épître de Paul à Timothée. Et je vais lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Et je voudrais regarder avec vous les qualifications pour le ministère. Paul donne ici les qualifications nécessaires pour le ministère de l'Évangile, pour prêcher l'Évangile. Je pense que cette étude est très importante aujourd'hui du fait qu'il y a beaucoup d'institutions qui sont en train de former des prédicateurs, mais ils ne sont pas en train d'être formés. Il y a beaucoup de bruit encore. Il faut couper le micro. Coupe le micro et puis s'il faut parler, là tu peux rebrancher. Je ne sais pas qui. C'est Amédée, c'est ton micro toujours? Ok. Ça c'est. Ah bon? Ok. Donc, non, ça va. Peut-être c'est chez Koulibaly, je ne sais pas. Non, mais je parle de bruit derrière. J'entends beaucoup de bruit de circulation. Non? Ok. Je ne sais pas. Ok. Lisons 1 Timothée 1 à partir du verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Alors voilà le point clé que nous sommes en train de regarder. Quelles sont les qualifications? Quelle est la qualification pour le ministère? Moi, dit dans le verset 13, qui était auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, la première des choses que je note ici, nous avons encore beaucoup de bruit. Amédée, il y a beaucoup de bruit là derrière. C'est chez toi? C'est bizarre.
C'est bizarre.
Peut-être que nous avons une quatrième.
Moi, je veux que vous le soyez bien. Je veux que vous le soyez bien. En tout cas, moi, je veux que vous le soyez bien. Je veux que vous le soyez bien. Aurélien, le pasteur,
Ken. OK. Seulement, j'entends du bruit de circulation, un avion. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de. OK. Ça...
Bon, moi, je suis à côté d'une rue, mais je suis dans une maison enfermée ici.
Oui, oui.
Je ne sais pas.
OK, ah, non. Peut-être. Ça va. Maintenant, ça va. Mais ça va et puis ça vient. Donc, je ne sais pas. OK. Bon, le point que nous sommes en train de voir, c'est les qualifications pour le ministère. Je dirais peut-être. Mettre ça au singulier, la qualification pour le ministère. Et la première des choses que nous voyons ici de la part de l'apôtre Paul, c'est qu'il rend grâce à celui qui m'a fortifié, et puis il précise encore, à Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors ça, c'est peut-être la première des choses que nous pouvons dire concernant la qualification pour le ministère. C'est en rapport avec le Seigneur Jésus-Christ, qui il est, pourquoi il est venu, et pour qui il est venu, et qu'est-ce qu'il a accompli en venant dans ce monde, et où il est maintenant. Je sais que le frère Koulibaly, tu m'as envoyé une confession de foi de la mission là-bas. Mais tu sais, la première des choses que je regarde dans une confession de foi, si quelqu'un me dit, bon, si tu peux regarder ça pour me dire si c'est vrai, je ne regarde pas tout ce qui est écrit, mais je regarde qu'est-ce qui est dit au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Parce que si ce n'est pas axé sur lui tel qu'il est révélé dans les Écritures, donc c'est une fausse doctrine. Quelles que soient les autres, peut-être, vérités qui sont dites, tu sais que même les menteurs, les voleurs disent un peu de vérité, tout juste un tout petit peu, pour pouvoir arriver à faire croire à leurs mensonges. Et c'est ça le problème dans la religion. Je dis souvent que pour tuer un rat, 99% de cette nourriture, c'est le riz. Mais 1%, c'est le poison. Et c'est ça qui tue le rat. Et je dirais la même chose. Si quelqu'un n'est pas juste sur la doctrine de Christ, et encore, c'est la doctrine telle que c'est révélée dans les Écritures, donc c'est une fausse doctrine. Quelles que soient les autres soi-disant vérités qui sont propagées, dans la deuxième épître de Jean, il n'y a qu'un seul chapitre, mais vous verrez que c'est ça la règle que l'apôtre Jean lui-même a donnée, parce qu'il y avait beaucoup de prédicateurs qui parcouraient les pays à son époque, qui entrait dans ces assemblées où l'évangile était prêché. Mais ils sont venus semer la confusion tout en prêchant peut-être la grâce de Dieu, mais de l'autre côté, disant en même temps, il faut faire ceci ou cela. Ils prêchaient aussi les règles des hommes. Le bruit est revenu. Je ne sais pas d'où ça vient.
On dirait que c'est au niveau des langues.
J'entends des enfants. La circulation, ok, c'est mieux maintenant. Dans 2 Jean, la seconde épître de Jean, notez ce qu'il dit dans le verset 7, car plusieurs séducteurs, notez, plusieurs, donc ce n'est pas seulement par-ci, par-là, mais plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Tu sais, à la première époque, il y en a qui enseignait que Christ ne pouvait pas réellement devenir un homme parce qu'il considérait que la chair était le péché. Alors il disait qu'il est venu mais il n'est pas vraiment devenu un homme. Alors voilà une déviation de la doctrine. Mais c'est comme je disais, vraiment. Ouais, je ne sais pas. Tu vois, c'est un avion qui passe maintenant. On dirait qu'on est au marché.
Le micro de son appareil est si puissant qu'il capte de l'air.
Oui, non, c'est sûr. Ce que je suggère, Amédée, c'est j'ai trouvé une manière de couper le micro. Tu coupes le micro. Si tout le monde coupe son micro, voilà, maintenant c'est mieux. OK. C'est le Seigneur qui dirige. Mais en même temps, je voudrais dire aujourd'hui, c'est sur ça qu'il faut faire attention. Qu'est-ce qu'ils disent de Christ? Parce que quiconque ne confesse point que Jésus-Christ est venu en chair, ce n'est pas seulement qu'il est venu en chair. Beaucoup confessent qu'il est venu en chair. Mais pourquoi est-ce qu'il est venu? Voilà la question. Et pour qui est-ce qu'il est venu? Nous savons qu'il est venu pour la gloire de son Père. Il est venu satisfaire la justice à l'égard de son Père. Et si ça, ce n'est pas la doctrine qui enseigne au sujet de Christ, donc Christ n'est pas prêché. C'est tout simple. Et ça ne prend pas beaucoup de temps pour écouter quelqu'un de savoir si vraiment il représente Christ ou non. Si, par exemple, je me représentais comme l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, ça ne prendra pas beaucoup de temps pour des gens en me voyant pour dire « Ah, c'est un faux. Ce n'est pas véritablement un ambassadeur parce que ce qu'il dit ne correspond pas avec sa position. » Et je dois dire que c'est comme ça qu'on évalue les prédicateurs. Nous n'acceptons pas simplement parce que quelqu'un dit qu'il est un prédicateur ou qu'il est envoyé de Dieu. Ou bien le mot que les gens aiment utiliser souvent, c'est qu'ils ont reçu l'appel de Dieu. Quand ils parlent comme ça, c'est les gens disent « Ah bon, donc si Dieu t'a appelé, bon, on va t'écouter. » Mais Jean, ici, dit quoi? Celui qui est tel, cela veut dire qu'il ne confesse point le Seigneur Jésus-Christ tel qu'il est révélé dans les Écritures, prêchant le but de sa venue, c'est de glorifier son Père. Et pour qui il est venu? Quelqu'un qui parcourt pour dire aux gens, mais Dieu veut te sauver, mais il ne peut pas te sauver si toi-même tu ne prends pas la décision. Ça, ce n'est pas un prédicateur de Christ. Parce que Christ lui-même a dit qu'il n'est pas venu pour les justes ou bien les soi-disant justes, mais pour les pécheurs. Il est venu pour appeler certains pécheurs à lui-même. Quand les gens disent, nous prions pour tout le monde. Ouais. Ben, si tu dis ça, tu es en train de prier contre même la prière de Christ. Parce que dans Jean 17, et le verset 9, Christ a dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné. Alors voilà les précisions que nous cherchons, non seulement dans les confessions de foi et écrites, mais surtout dans les prédications. Alors quel genre de Christ est prêché? Ça, c'est important. Quand Paul dit ici, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, s'il n'a pas précisé, si l'Esprit n'a pas poussé à préciser, on aurait dit, bon, il parle de Dieu, comme les gens se servent du nom de Dieu. Mais il précise à Jésus-Christ, notre Seigneur. Si Dieu se révèle à un pécheur, ça va être à travers le Seigneur Jésus-Christ. Et ça va être à travers sa parole écrite. Et autrement, tu vois, Jean ici dans la deuxième épître et le verset 7, il utilise un terme qui est très fort. Il dit c'est le séducteur et l'antéchrist. Lui dit l'époux Christ, mais la Bible le déclare antéchrist, contre Christ. Tel est l'esprit en lui. Et donc dans le verset 8, prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Tu sais, il est en train d'écrire à un ancien de l'Église, verset 1. Alors, ça, c'est une parole adressée à nous. Quand il dit, prenez garde afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Ce n'est pas en train de parler d'une récompense au ciel. Mais en tant que prédicateurs, nous sommes comme des planteurs et nous irons chaque jour semer l'Évangile, semer la parole de Dieu, semer la parole de Christ. Mais comme un planteur, il prend garde à ce champ afin que rien n'entre dans le champ pour détruire le fruit qui a été qui est le résultat de la bonne semence. Nous prêchons chaque semaine. Je le fais ici, vous le faites là-bas. Il y a une semence qui est mise à notre charge, qui est la doctrine de Christ, la personne de Christ, son œuvre et ce qu'il est venu accomplir. Et c'est ça le message clair que nous avons annoncé. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de détracteurs. Il y en a qui vont venir même dans le nom du Seigneur Jésus, soi-disant. Ils disent qu'ils viennent dans son nom, mais ils prêchent à côté. Ils utilisent des termes, peut-être, comme grâce, rédemption, salut, Jésus-Christ, mais la manière qu'il explique, l'Esprit de Dieu étant en nous et regardant la parole, nous discernons immédiatement que c'est un séducteur qui ne dit pas la vérité. Et ceux-là doivent être dénoncés. Regardez bien ce que Paul dit dans le verset 9, qui est très, pas Paul, mais Jean, dans sa seconde épître, verset 9. Quiconque va plus loin. Combien de fois les gens ajoutent, aller plus loin. Ils ajoutent à la doctrine de la Bible et ne demeurent pas, notez bien, dans la doctrine de Christ. Ce n'est pas les doctrines, c'est la doctrine de Christ. N'a point Dieu. Ça veut dire, s'il n'a point Dieu, c'est qu'il n'est pas converti. Quel que soit ce qu'il dit, il n'a point Dieu. Dieu n'est pas en lui. Dieu ne l'a pas envoyé. Dieu n'est pas en train de parler à travers ce qu'il dit. Et celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Et puis, il ajoute dans le verset 10, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Tu sais, les gens se réunissaient dans les maisons. Il n'y avait pas des grandes structures comme nous voyons aujourd'hui qu'on appelle une église. Ce n'est pas une église, c'est un bâtiment. Et nous ne devons jamais nous décourager du nombre, parce que je crois de nos jours, ceux qui sont vraiment appelés du Seigneur, c'est un petit troupeau, comme au temps de Christ. Ce n'est pas dans les masses. Ne soyons pas détractés par le nombre de gens qui poursuivent les fausses religions. Il y en a beaucoup. Présentement, si vous suivez les nouvelles, le pape est en train de faire son tour ici aux États-Unis et les gens courent pour le voir. Il y a des masses qui le suivent et qui l'adorent. Tu sais, sa position en tant que pape est une position d'antéchrist parce qu'il se met à la place de Christ. Et chaque fois qu'ils font leur cérémonie, ils sont en train d'offrir de nouveau le corps de Christ selon eux. Mais Christ est sacrifié une seule fois. Alors, voilà encore un exemple où nous devons prendre une position basée sur la Bible et dire que telle n'est pas la vérité. Alors, qu'est-ce qui qualifie quelqu'un pour le ministère? C'est cette révélation du Seigneur Jésus-Christ. Et en revenant ici dans 1 Timothée, chapitre 1, le verset 12, c'est ça la première des choses que nous voyons comme la base. Si Paul était ici aujourd'hui en train de témoigner et on pouvait lui demander, Paul, qu'est-ce qui t'a qualifié à être un ministère du Seigneur Jésus-Christ? Il allait répondre simplement la grâce de Dieu et l'autorité du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Bon, quand il dit dans le verset 12 qu'il m'a jugé fidèle, tu sais, là encore, c'est une piège si on n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce que ça, c'est la deuxième des choses que les gens aiment souligner comme qualification pour le ministère. Ils disent qu'il faut que ça soit un homme fidèle. Mais de la manière que les hommes définissent la fidélité, on va laisser passer le bruit encore de la circulation. Mais la manière que les hommes définissent la fidélité, c'est toujours dans le sens de la moralité, ou bien des choses extérieures. Et je ne dirais pas que cela n'est pas nécessaire. Nous allons voir ça dans la suite. Que oui, il y a certaines de ces qualités qui sont importantes pour nous. Il faut que nous soyons des hommes honnêtes, sans blâme, devant le monde. Mais ici, dans le verset 12, je crois que le sens quand il dit de ce qu'il m'a jugé fidèle, il est en train de parler de sa position en Christ, que Dieu l'a jugé un de ses fidèles en Christ. Tu sais que ça, c'est le nom, c'est un nom que nous voyons dans la Bible qui décrit les élus. Ils sont des fidèles, pas parce qu'ils sont fidèles en eux-mêmes, mais parce que Christ est fidèle. Vous voyez, et c'est sa justice qui est imputée à ceux pour qui il est venu, à ceux qu'il a rachetés. Nous sommes déclarés fidèles parce qu'il est fidèle. Alors, je crois que ça, c'est le sens. Paul, quoi qu'il a découvert plus tard dans sa vie, qu'il était en fait un de ses élus pour qui Christ est venu. Mais ici, il m'a jugé fidèle, il m'a jugé un de ses fidèles-là, un de ses élus-là, un de ses rachetés-là. Ça, c'est le sens, je crois, de ce mot. Alors, là encore, si quelqu'un ne peut pas clairement définir la doctrine de Christ et clairement dire comment le Seigneur lui-même l'a sauvé par la grâce et par son œuvre rédemptrice à la croix et donner toute la gloire à Dieu. Ouais, c'est comme ça Paul le dit dans le verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Combien de gens, quand ils témoignent de leur conversion, ils sont en train de témoigner de ce qu'ils ont fait. J'ai pris la décision. Je me suis rendu compte que, non? Paul dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Il m'a jugé un de ses fidèles, un de ses élus pour qui il est venu, en m'établissant dans le ministère. Alors, voilà la première des choses que je veux vérifier de quelqu'un. Quand il dit qu'il est envoyé de Dieu, ou bien Dieu l'a appelé au ministère, et c'est pourquoi il prêche, bon, parle-moi de Christ. Dieu n'envoie pas quelqu'un pour prêcher autre message que son Fils. Et si quelqu'un est doué et il a la capacité de bien prêcher, mais ne prêche pas Christ, donc c'est un mensonge. Et lui-même, il se trompe en disant que Dieu l'a appelé. Je vais m'arrêter là un peu. Est-ce qu'il y a quelques pensées que vous avez là-dessus avant de continuer?
Allô?
Oui, vas-y.
Je voudrais signifier que, comme vous venez de dire avec le titre, c'est-à-dire la qualification de notre serviteur, une qualification qui transparaît ici est que les enfants de Dieu en général et les serviteurs de Dieu en particulier sont réellement établis. Ce ne sont pas des gens qui s'établissent et qui se jugent par rapport à eux-mêmes. Mais vous allez remarquer que l'apôtre Paul se juge par rapport à Jésus-Christ. Et c'est ça réellement qu'on fait Christ. Vous voyez, comme vous venez de dire, il y a des gens qui, plutôt que d'être servis à annoncer bonté de Dieu, la longanimité de Dieu, ils se jugent et s'établissent pour constituer une barrière à la compréhension de cette parole. Mais l'apôtre Paul, nous remarquons que c'est vraiment une particularité, un exemple qu'il est comme serviteur de Dieu, en ce que, lui, il se juge par rapport à Jésus-Christ. Et par rapport à cela, il dit, c'est lui qui m'a fortifié. Vous voyez, l'enfant de Dieu ne se fortifie pas par rapport à lui-même. Au contraire, quand il se regarde, il sait qu'il n'est rien. Mais quand il se voit à travers la foi, quand il confesse Jésus-Christ, effectivement, il peut trouver que ce n'est pas lui qui s'est jugé fidèle, mais c'est Jésus-Christ qui se voit en lui et qui l'a jugé fidèle. Et c'est là l'habitude de Paul. Par exemple, si nous prenons Philippiens 3, Philippiens 3, au verset 8, par exemple, lui-même, l'apôtre Paul, par rapport à lui, sa personne, il dit, et même je regarde tout cela comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc, nous remarquons que l'apôtre Paul, en réalité, comme normalement tout serviteur de Dieu, et en général tout, et ceux qui sont réellement convertis à Christ, ne veulent jamais se trouver en eux-mêmes à travers les personnes. Et c'est pourquoi il est fait que la Bible et Jean nous exhorte à éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Si le Saint-Esprit réellement révèle Christ à un homme et permet à un homme de communiquer Christ, ce dernier ne peut que confesser Jésus-Christ, comme Paul le fait, et se voir en Jésus-Christ comme Jésus-Christ lui-même, et le voir en lui pour l'envoyer. Est-ce que vous voyez? Donc, le souci du serviteur de Dieu, c'est d'être trouvé en Christ exactement comme Dieu le voit en sa personne. Et c'est aussi de faire en sorte de prêcher de manière à ce que les hommes se voient seulement en Christ comme Jésus et non en eux-mêmes pour s'établir et finalement pour commencer par communiquer d'autres doctrines pour ne pas demeurer dans la doctrine de Christ. Et donc, je vois particulièrement effectivement dans l'apôtre Paul cette confession et c'est ça réellement confesser Jésus-Christ. Donc, l'homme qui est en train de dire que Dieu l'a appelé, on doit se demander en réalité quel est l'esprit qui est en lui dans cette chair. Et c'est lorsque cet homme se met en rapport avec Christ seul et constate que ce n'est pas la fidélité de Christ qui l'est établi, qu'il va communiquer, c'est-à-dire ce Christ de manière à ce que ceux qui l'écoutent aussi puissent se voir à travers cette même foi. Cette qualification est très importante pour nous, puisque les gens qui nous écoutent seront à l'image de nous. Maintenant, si nous nous montrons comme nous le juste, nous constituerons une barrière et non un exemple de la grâce de Dieu envers nous pour que aussi puisse voir en Jésus-Christ. Et cela est particulièrement important quand même de garder.
Oui, c'est beaucoup qui sont dans le ministère, soi-disant, qui sont là pour eux-mêmes et comme ils sont une barrière au lieu d'être un annonceur de la gloire de Christ. Comme Jean-Baptiste l'a dit, quand les pharisiens sont venus lui dire, tu sais qu'il y a beaucoup plus qui suivent le Seigneur qui te suivent. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il faut qu'il
croisse.
C'est ça, qu'il croisse et moi je diminue.
C'est ça.
Et quand Paul dit de ce qui m'a jugé fidèle, il est un de ces fidèles déclaré tel par Christ et son œuvre, mais qui est fidèle aussi à cette parole. Si quelqu'un, le Seigneur l'a convaincu de la nécessité de Christ seul pour son salut, donc partout où il va, il ne parlera que de Christ. C'est ça. Bien. Tu sais, le mot m'établissant, là, c'est un mot intéressant dans l'original. Et c'est pour ça que je n'aime pas tellement cette manière de parler quand les gens disent que Dieu m'a appelé au ministère. Tu sais que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à Christ. Et si nous sommes appelés à Christ, nous servirons Christ. Ça, c'est le rôle de chaque membre de son corps. Pas seulement d'un prédicateur en tant que tel. Seulement, si nous sommes, je dis souvent à la congrégation ici, à l'assemblée, que c'est un privilège pour moi de pouvoir prêcher cet évangile parmi vous, pas au-dessus de vous, mais parmi vous. Je ne suis qu'une brebis que Dieu a appelée et Christ a rachetée, que le Seigneur se sert de diriger d'autres brebis ou les encourager à suivre le berger Christ. Je ne suis pas le berger. Tu sais, le mot pasteur, je sais que ça signifie berger, mais c'est lui qui est le grand berger. Et donc, notre rôle, c'est simplement de montrer à ces brebis la voie vers Christ. Christ est le salut. Christ est notre sanctification. Christ est notre justification. Christ est notre salut. Et donc, en tant que ministre, du Seigneur Jésus-Christ, notre rôle, c'est de servir Christ. Tu sais, le mot ministère, bon, d'abord, m'établissant, c'est un mot qui veut dire ordonné de Dieu. C'est, si je suis qui je suis, c'est parce que Dieu l'a ordonné. On ne peut pas parler d'être ministre du Seigneur sans avoir été ordonné à cela. Et comment on peut savoir si on est ordonné à cela? Ça commence par la révélation de Christ. Quelqu'un ne peut pas gagner une course qui n'a pas commencé au début. S'il commence au milieu et puis court pour dire qu'il a gagné la course, il sera disqualifié. Le départ pour tout vrai serviteur de Dieu, c'est la révélation de Christ. Ce n'est pas seulement la connaissance de la Bible. Il y a beaucoup de gens qui courent, qui ont une certaine connaissance de la Bible, mais qui sont comme les pharisiens, qui parcourent la mer et la terre pour gagner un seul converti, mais après avoir fait de lui un converti, et cet inconverti, pas à Christ, mais à leur religion, cette âme est devenue deux fois le fils de perdition qu'auparavant, parce qu'il est maintenant aveuglé. Il y a des prédicateurs qui donnent un faux espoir aux gens, en leur disant, si seulement tu cites cette prière, ou bien tu confesses le Jésus que je suis en train de te prêcher, donc tu seras sauvé. Ils sont en quelque sorte des petits prêtres qui parcourent et qui font la signe de la croix et qui pardonnent des gens. Il y en a dans les organisations catholiques, mais il faut dire dans des organisations baptistes, pentecôtistes, protestantes, c'est la même chose. Des prédicateurs sont comme des petits prêtres à qui les gens regardent pour avoir une espérance du salut. Mais Paul dit ici que s'il prêche, s'il est dans le ministère, c'est Dieu qui l'a établi, ordonné. C'est comme si tu prépares la nourriture et tu es dans les outils. C'est dans toute la nutrition, c'est dans la nourriture. Et ça, c'est un bon exemple de ce mot établi, placé. Mais si Dieu ne se sert pas de nous pour nourrir, parce que c'est lui qui est la nourriture, c'est Christ qui est le pain de vie, c'est Christ qui est l'eau vivante. Et si Dieu ne daigne pas bénir cette nourriture, Christ au cœur de ses auditeurs-là, ou bien de ses élus, ceux qu'il a élus, nous ne sommes rien. Nous n'avons pas, c'est pourquoi il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié. L'apôtre Paul était un homme intelligent. Il connaissait bien les langues. Comme il disait aux Corinthiens, il parlait en langue plus que tous. Ça, ce n'est pas les langues comme les gens disent aujourd'hui, mais il parlait des véritables langues. Il traversait pas mal de pays et Dieu lui a donné ce don de pouvoir communiquer dans ces langues-là, en prêchant. Je me souviens en Afrique, au Tchad, je connaissais un homme quand je grandissais au Tchad. Il y avait un homme qui avait appris 21 langues et il pouvait communiquer dans chacune de ces langues, tu vois. Ça c'est vraiment un don de Dieu. Mais on peut avoir tous ces talents et ne pas prêcher Christ. Les gens courent derrière des gens parce qu'ils ont la facilité de parler, mais ce n'est pas ça qui les qualifie pour le ministère. Paul dit qu'il m'a jugé fidèle, un de ses fidèles, mais m'établissant. Tu vois, la manière qu'il le dit, c'est que Paul lui-même était inanimé dans cette affaire-là. C'est Dieu qui agissait du départ, du début jusqu'à la fin. Il dit en m'établissant dans le ministère. Tu sais, ce mot ministère-là, c'est le mot diacre. Nous allons voir ça un peu plus loin, mais tu sais, dans les assemblées aujourd'hui, quand on établit quelqu'un comme diacre, c'est quelqu'un qui prépare peut-être ce qu'ils appellent la Sainte Cène. Les éléments, ils sont en train de faire le travail dans l'assemblée de compter l'argent, peut-être de finances et autres. Mais ça, ce n'est pas le sens du mot diacre dans la Bible. Si vous étudiez ce mot diacre, un diacre était quelqu'un qui était un serviteur de Christ qui prêchait, qui passer partout pour prêcher Christ, prêcher l'évangile de Christ. Et ça, c'est le mot que Paul utilise de lui-même. Il était un diacre du Seigneur. Le Seigneur l'a établi dans le ministère. Et il reconnaît que ce n'était pas de lui, parce qu'il dit, moi qui étais auparavant, quoi, un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Non? Quand on considère son état avant que Christ l'a rencontré sur la route de Damas, il était un homme religieux. Mais quand il dit qu'il était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, tu sais qu'il était un homme élevé dans le Sanhédrin. Il devait être un de ces hommes qui ont condamné Christ à la mort quand ils se sont réunis pour le jugement de Christ et le condamner. Paul était, il aurait été parmi eux. Et c'est pourquoi il utilise ces termes qui sont si clairs. J'étais un blasphémateur, j'étais un persécuteur, j'étais un homme violent. Il reconnaissait son état de culpabilité avant que Christ ne s'est révélé en lui. Alors, voici encore une qualification du ministère. Je n'entends pas beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui se donnent le blâme, qui se donnent la culpabilité de ce qu'ils étaient dans la fausse religion. Mais, tu sais, j'étais là, frère Aurélien, je me souviens bien cette réunion où la séparation est devenue claire parce que tu étais sur le chemin de devenir le grand pasteur national pour l'église baptiste méridionale là-bas au Bénin. Tu étais en train de suivre tes cours de formation, mais en écoutant à la radio, c'est Dieu qui a conduit, a dirigé ton cœur sur l'évangile. Et je me souviens bien cette fameuse réunion dans cette grande chapelle qui était en construction. Et le frère Paul et moi étaient là pour prêcher. Et il y avait ces deux missionnaires qui étaient ce jour-là. Ça m'a étonné de les voir là, mais ils étaient en assistance ce jour-là. Et il a essayé de... Enfin, il a fait. Il s'est levé pour arrêter la réunion. Et tu lui as bien dit, parce que quand tu lui as demandé est-ce que tu as un problème, il dit oui, j'ai un problème avec toi. Et donc, il y avait une séparation. Et maintenant, l'état où tu es, c'est grâce à ça, cette distinction que Dieu lui-même a fait, que tu, aujourd'hui, tu es à part. Et ça, c'est une miséricorde. Nous ne pouvons pas travailler avec de tels gens. C'est Dieu lui. C'est pas là qu'on voit ce qu'on était, parce qu'on était un de leurs nombres pendant un certain temps, mais c'est Dieu qui nous a séparés. Je me souviens aussi, dans les années passées, quand le pasteur Clark et moi voyageaient pour des cours de formation dans les différents lieux, je ne me rappelle pas de son nom, mais je me souviens qu'il y avait un des prédicateurs qui s'élevait parce qu'on donnait à certains l'occasion de prêcher, de témoigner dans ces réunions-là. Et je me souviens un qui s'élevait pour dire qu'il était un assassin. Et beaucoup étaient étonnés. Pourquoi tu étais un assassin? Et il disait que j'étais un assassin d'âme, parce que je ne prêchais pas Christ. Et par ma prédication, par mon message, je condamnais des hommes au jugement parce que je ne prêchais pas Christ. Et je me rends compte de cela maintenant. Et il le disait avec des larmes aux yeux. Pour moi, quand quelqu'un prêche comme ça, ça me dit que oui, véritablement, il semble que Dieu a fait une œuvre de grâce dans son cœur. Parce qu'il y a une différence. Comme il y a une différence entre les ténèbres et la lumière. Si un homme ne peut pas parler d'avoir été perdu à un certain temps, et maintenant que c'est le Seigneur qui l'a trouvé et lui a fait grâce et l'a établi dans le ministère, et qu'il était auparavant un blasphémateur, un persécuteur. Quand on prêche une doctrine qui n'est pas conforme à la doctrine de Christ telle que nous la voyons dans la Bible, il faut dire que nous sommes des blasphémateurs. Si j'ose me lever et prêcher sur autre sujet que Christ et lui crucifié, je suis un blasphémateur et je suis un homme violent parce que dans ma nature, je ne veux pas que Dieu ait toute la gloire. Christ ait toute la gloire, c'est pourquoi je prêche autre chose. Alors, si Christ est vraiment révélé dans le cœur de quelqu'un, il ne peut que prêcher Christ. Mais il va confesser devant les hommes ce qu'il était. Il ne va pas donner la gloire à une profession de foi qu'il avait auparavant, qui n'est pas conforme à la doctrine de Christ telle qu'elle est révélée dans la Bible. Mais il dit, j'ai obtenu miséricorde. Voilà le mot-clé. Miséricorde. Dans le mot miséricorde, c'est le mot misère. À part de Christ, c'est tout ce que nous pouvons dire de nous-mêmes. Nous sommes dans la misère. Nous sommes comme des lèpres qui sont condamnés à la mort. Mais j'ai obtenu miséricorde. Et quand il dit, parce que j'agissais par l'ignorance, il faut pas penser que Dieu pardonne l'ignorance. Ce n'est pas que, bon, j'ignorais ça, et donc Dieu est amour, il va tout oublier. Non. Tu vois, Paul explique l'ignorance. Il dit, dans l'incrédulité, l'ignorance dont il parle, là, c'est la rébellion. Et c'est ce que chacun confesse quand l'Esprit de Christ est en lui. Il confesse qu'il est un rebelle. Ce n'est pas que j'étais seulement ignorant de Christ et de son salut. J'étais un rebelle à Christ et son salut. Je travaillais contre lui. Et je dirais que il y a beaucoup aujourd'hui qui sont dans le ministère, qui se vantent d'être ministres. Ils se vantent d'être ministres de Jésus-Christ, mais en fait, qui sont ses ennemis. Quand Christ, dans Matthieu, par exemple, Matthieu 7, et le verset 21, il dit ça, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quelle est la volonté du Père qui est dans les cieux? C'est de glorifier Christ seul. Mais tu vois pourquoi Christ renonce beaucoup de ses prédicateurs, parce que dans le verset 22 de Matthieu 7, c'est écrit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, ça c'est Christ qui parle ici, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Et notez ce qu'il les appelle, vous qui commettez l'iniquité. Ça, c'est le sens du mot blasphémateur, persécuteur, un homme violent. Chaque fois qu'un prédicateur se lève et il ouvre la bouche pour déclarer la parole de Dieu, mais qu'il ne prêche pas ce message, qu'il ne prêche pas Christ et lui crucifié, il est en train de commettre l'iniquité. C'est un séducteur, c'est un blasphémateur, c'est un homme violent, c'est un persécuteur. Il est en train de parler contre la véritable doctrine de Christ. Je sais que ce sont des paroles dures, mais c'est les paroles nécessaires. Parce qu'il y a trop de prétendeurs aujourd'hui, trop de faux prédicateurs. À l'extérieur, tout semble être en train de servir la cause de Dieu, mais prenez garde, c'est comme Jean a écrit. Et Paul lui-même a dit, tout ce qu'il était auparavant, il agissait en tant que l'homme perdu, dans l'incrédulité. Mais, verset 14, notez à quoi il donne la gloire. Il dit, la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Notez bien, la grâce, la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de bruit encore. Ouais. Pour être un ministre du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas l'homme lui-même qui s'établit dans le ministère, mais c'est Dieu qui établit dans le ministère ses serviteurs et leur donne la grâce et même la foi. Tu vois, quand il dit la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi, il est en train de parler de cette grâce éternelle, cette grâce électrice qui a élu les pécheurs, cette grâce qui rédemptrice, qui est à travers le sang de Christ et sa justice accomplie à la croix. Et la charité ou bien l'amour, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et tout cela, c'est en Jésus-Christ. Tu vois, il commence avec Jésus, il termine avec Jésus. Il y a un prédicateur qui a dit que si un message n'est pas préparé avec Christ en vue et prêché avec Christ en vue et appliqué avec Christ en vue, donc c'est une iniquité, c'est un crime qui est commis. Et avec cela, imaginez combien de crimes qui sont commis à travers les temps d'adoration aujourd'hui. Les gens s'en vont en masse. Mais pourquoi ils sont là? C'est un adultère qu'ils commettent si Christ n'est pas prêché. Alors, si le Seigneur nous donne cette perspective-là, je crois que ça va diriger chacun de nous et nous amener nous-mêmes à évaluer pourquoi je me dis ministre du Seigneur. Ce n'est pas quelque chose que nous prenons à nous-mêmes, mais c'est selon ce que Dieu lui-même donne. Il y a un autre verset, un texte là que je voudrais lire dans Romains chapitre 5. Quand Paul dit là qu'il a obtenu miséricorde, c'est de ça qu'il parle dans Romains chapitre 5. C'est une miséricorde spéciale adressée particulièrement à ceux que Dieu lui-même a choisi. C'est pas pour tout le monde. Quand il dit dans Romains 5, le verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Voilà les termes. Quelqu'un dit que le Seigneur a sauvé par sa grâce, il reconnaît ce qu'il était et ce qu'il est, pécheur, impie, sans force. Et verset 7, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je parle à beaucoup qui disent qu'ils ont grandi dans l'église, que le père était pasteur. Donc, dès leur enfance, ils ont connu le Seigneur et ils se vantent de cette connaissance. Mais quand tu les écoutes, ce n'est pas une confession de Christ telle qu'est révélée dans les Écritures. Ils ont reçu ça des hommes, mais non pas de Dieu. Ouais, il y a une différence. Alors, je vais m'arrêter là. Il est 7h30 ici aux États-Unis. Je dois bientôt me préparer pour la deuxième séance avec les frères au Malawi. Mais si vous avez quelque chose à ajouter, ça c'est le bon moment de le faire maintenant.
Bon, je voudrais ajouter quelque chose, si vous me recevez.
Oui.
Bon, vraiment, voilà. Je vois que je reconnais réellement l'avancement des chrétiens dans la grâce. Parce que nous avons réellement affaire aujourd'hui à des chrétiens orgueilleux, alors qui fixent réellement tout le pouvoir sur leur personne et qui ne comprennent même pas. C'est-à-dire que ce message d'amour, je suis en train de suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Parce que ce passage nous place réellement, sans la grâce de Dieu, nous méritons réellement le plus profond de l'enfer. Vous savez, je vais vous donner un petit exemple. Il y avait un grand orateur américain, je crois qu'il s'appelle John Leonard. C'est un grand prédicateur. Alors un jour, il devait venir prêcher dans une grande église, dans une grande assemblée. Alors quand il rentrait, il y a un monsieur qui s'est approché près de lui et il a glissé une note dans sa main. Alors sur cette note-là, qu'est-ce qui était écrit? Il dit, monsieur Leonard, toi tu es vraiment un hypocrite, un ingrat. Tu as été mêlé à des scènes d'orgie, de blasphème, tout ça ici. Et tu prétends encore que tu veux venir prêcher Dieu. Est-ce que vraiment tu n'as pas honte? Et quand il a lu la lettre, Et il n'est pas laissé verser, il a ouvert la Bible dans ce passage justement que nous sommes en train de lire, dans 1 Timothée 15. Et il a ouvert la lettre et il a dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi, John Leonard, le premier. Et il a dit que quand je rentrais ce matin, quelqu'un m'a tendu cette lettre, une lettre, pour dire que je suis voleur, je suis blasphémateur, je suis ingrat. C'est une parole certaine, je le suis, et j'ai fait toutes ces choses. Mais je le regrette, je me confesse, et je ne veux pas, ce n'est pas de ma volonté d'empêcher ces choses, mais j'ai reçu vraiment la grâce. Voilà, réellement, quelqu'un qui reconnaît la grâce de Dieu, qui sait qu'il ne peut rien faire, c'est là déjà qu'on reconnaît que la personne est vraiment mûre. Alors, quand on a lu ce passage-là, vraiment, ça m'a fait rappeler ce matin.
Ouais.
Que le Seigneur vraiment
voilà, c'est la grâce humilie, vraiment. On ne cesse de se reconnaître comme pécheur. Tu sais, le verset que tu viens de citer, Paul écrit cela à la fin de sa ministère. Il était en prison, il s'attendait à être exécuté. Et en écrivant à Timothée, quand il dit c'est une parole certaine et entièrement d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, il ne dit pas dont j'étais le premier, mais dont je suis maintenant. Le plus nous voyons la gloire de Christ avec les yeux ouverts par l'Esprit de Dieu, plus nous voyons notre état de péché. Et nous ne cessons de confesser cela devant Dieu. Et comme tu dis, frère, c'est par la grâce de Dieu que je prêche et que je suis ce que je suis, par sa grâce. Ça c'est bien une bonne illustration. Nous allons revenir sur le verset 15 la semaine prochaine. Oui, frère Aurélien.
C'est important de dire que la façon dont Dieu traite avec nous en nous établissant dans le ministère, et il ne négocie pas avec nous en tant que pécheurs. Et il ne négocie pas non plus avec notre péché, comme le frère vient de dire tout à l'heure, où beaucoup s'imaginent que ce n'est pas leur effort d'être pur, leur justice que Dieu les traite. Mais il fait quoi? Il ne considère pas ce que nous sommes, faisons ou avons, mais il met simplement ce que lui, il est, fait et possède et le révèle à notre cœur. Et c'est à partir de ce moment que nous commençons par voir. Plus nous avons la révélation de Dieu, plus nous voyons notre petitesse. Et c'est ça la particularité même de l'homme véritablement converti. Plus il connaît Dieu, ce n'est pas ses péchés qui sont horribles, mais c'est ce que Dieu est qui manifeste l'horreur de ses péchés, de sa personne et de ce qu'il possède également. Vous voyez, donc, Paul l'a exprimé si clairement ici. Quand il a dit, vous l'avez bien souligné, il dit, je suis le pire, le premier. Donc, plus je suis en train de voir Dieu tel qu'il est présentement dans la réalité, je suis en train de me voir tel que je suis par rapport à lui. Et c'est là, en réalité, la vraie repentance. Si nous ne nous voyons pas pécheurs par rapport à ce que Dieu est lui-même, nous nous trompons. Et si nous nous voyons pécheurs par rapport à ce que nous avions fait, nous nous trompons. Nous devons nous voir pécheurs par rapport à ce que Dieu est. Quand nous voyons Dieu comme lumière, vérité, sainteté, pureté, c'est à travers Dieu que nous nous voyons comme pécheurs coupables et indignes. Et de la même manière, que Dieu, sa personne, son œuvre et sa gloire dans notre cœur, nous disons comme l'apôtre Paul et prêchons que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ a surabondé. C'est important que Dieu, comme Paul l'a dit dans Romains, là où le péché a abondé, Dieu ne se préoccupe pas d'enlever l'abondance du péché. Dieu se préoccupe de mettre la surabondance de sa grâce. Et à partir de ce moment, on ne perçoit ce que l'on est à faire au point même de les brandir devant les gens. Mais on ne peut que se confesser devant Dieu à cause de la surabondance de sa grâce. Même la foi, on ne doit même pas en glorifier parce que Paul dit ici que la grâce a déjà surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Ce sont questions qui se trouvent là et que Dieu négocie avec l'homme pour l'établir. C'est des choses qui se trouvent en Dieu, que Dieu a placé en Christ et le révèle à notre cœur. Et quand nous nous percevons dedans là, nous ne voyons même plus ce que nous sommes de bon, de mauvais. Même tout ce que nous sentions de bon devient encore péché et pire. C'est ça le signe réel de la conversion. En réalité, quand deux enfants de Dieu sont ensemble, contrairement à ce que nous constatons aujourd'hui là, les gens sont venus se mesurer l'un par rapport à l'autre et se pensent meilleurs à l'autre et capables de servir Dieu plus que l'autre par rapport à leur sainteté ou leur péché. Si deux enfants sont ensemble et se regardent devant Dieu là, ils seront en train de dire pratiquement: moi, je suis le fils. L'autre va dire: non, tu ne comprends rien. C'est moi qui suis le fils. Parce que chacun ne se voit pas par rapport à celui qui est à côté de lui, ni par rapport à sa justice ou à sa péché. Mais il se voit par rapport à Dieu qui a fait briller sa gloire pour faire sur la face de Christ. Et c'est par rapport à cela qu'on dit: je suis pécheur. Et on le confesse continuellement. La confession, ce n'est pas simplement dire: moi, je reconnais que j'étais pécheur, ou je reconnais que je suis pécheur, mais c'est de se frapper chaque fois la poitrine lorsqu'on se voit à travers Dieu savoir que l'on est pécheur. Mais ce qui a fait que nous bénéficions de tout l'héritage, de toute la sainteté, de toute la gloire de Dieu néanmoins, c'est parce que ça a surabondé en Jésus-Christ avec la foi et la charité. C'est ainsi que le vrai ministre n'a rien d'autre à communiquer, à proclamer et à louer en Dieu que la foi, la charité et la surabondance de la grâce qui a dépassé tout ce que nous pouvons apprécier dans ce monde. Donc, c'est très important vraiment, ce verset 14-là, où l'apôtre Paul, contemplant cette grâce, cette surabondance de grâce, et la foi et la charité en Jésus-Christ là, a compris qu'il était dans l'ignorance de ces choses, dans l'incrédulité, mais avec ça, maintenant, il se voit vraiment comme le pire, et que c'est Jésus-Christ en réalité qui a manifesté par la grâce de Dieu toute sa longanimité pour qu'il nous fait voir. Donc, je loue le Seigneur pour cette façon pour Dieu de travailler depuis même la création du monde. Quand il a vu les ténèbres là, il n'a pas cherché à ce que les ténèbres disparaissent d'abord, mais il a fait briller la lumière dans les ténèbres, et ça y est, ce qui est lumière vit, amour, apparaît et dépasse les ténèbres. Quand il veut se révéler à nous, il ne cherche pas à ce que nous soyons immaculés ou améliorés, mais il fait briller sa gloire dans notre cœur. Et nous devenons, nous nous voyons encore comme une nouvelle création. De la même manière, en prêchant l'évangile, gardons-nous de vouloir négocier avec les hommes pour qu'ils abandonnent ce qu'ils perçoivent comme péché pour se mettre en état devant Dieu afin que Dieu les accepte. Ça, c'est un autre évangile. Mais proclamons la gloire de Dieu, la magnificence de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu est en témoin de Christ, communiquons ce Christ qui est révélé à notre cœur. Par rapport à ce Dieu, ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il possède en Christ et qu'il nous donne en Jésus-Christ, le pécheur va se voir pire, non pas par rapport à quelques péchés adultères, vol, mais par rapport à sa personne, il est bien par rapport à Jésus-Christ. Donc c'est par rapport à Dieu que nous sommes coupables. Par rapport à Jésus-Christ, la grâce, la charité et la foi a surabondé. Et dans ce monde, maintenant, nous avons loué, proclamé, témoigné de cette grâce. Et même notre vie doit montrer la longanimité de Dieu envers nous. Et non, la justice de Dieu en nous récompensant comme étant meilleur. Parce que c'est ce que nous lisons chez certains prédicateurs. Ils veulent prouver que c'est parce qu'ils sont meilleurs que Dieu les utilise et ils parlent. Mais en réalité, si Dieu devrait utiliser quelqu'un de cette façon pour communiquer sa grâce, c'est les anges qui devaient utiliser. Mais Dieu n'a jamais utilisé un ange pour communiquer l'évangile, parce que personne ne se rapprocherait de lui si c'est un ange qui parle. Mais quand Dieu utilise un pécheur coupable qui se voit indigne dans, devant Dieu et proclame toute la grâce de Dieu qui a surabondé en lui, là les gens se feront réellement se confier en cette grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Donc nous n'attirons pas les gens vers nous parce que nous sommes meilleurs, mais nous attirons les gens vers Dieu parce que Christ est meilleur et c'est en Christ que nous sommes, faisons et avons ce que nous avons. Et tout est en Jésus-Christ. Vous voyez cette manière de l'apôtre Paul vraiment de confesser Christ et de le louer pour le faire, ça m'intéresse pas.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Si nous sommes vraiment du Seigneur, notre témoignage sera exactement celui. Merci bien, mes frères. Le temps court. Quand même, je remercie le Seigneur pour ces occasions. Je vais prendre encore la semaine prochaine. Je vais terminer par la prière. Il y a des frères au Malawi qui m'attendent pour notre nom en anglais. Là, donc, priez toujours pour moi aussi avec ces deux séances chaque samedi. Ça fait beaucoup d'enseignements. Par la grâce de remercier le Seigneur qui s'est communiqué sa parole et de lui donner aussi l'occasion d'avoir cette fraternité en Christ, quoique séparée par une grande distance géographique avec ses moyens, pouvoir reprendre comme si rien n'était. Quand j'écoute le frère Aurélien, Koulibaly, Amédée, c'est comme si on n'a jamais eu de silence. C'est comme ça. C'est comme ça que le Seigneur redonne. Merci pour ça. Bon, prions. Seigneur, je te remercie pour cette occasion que nous a donné encore de nous rassembler de cette manière. Une grâce de ta part. Je te remercie pour chacun de ces frères, leurs commentaires, l'esprit et en chacun vouloir donner gloire à un fils. Je sais que nous sommes tous dans les s'opposent ce message. Et ce n'est pas seulement dans le monde, mais même dans l'assemblée. Au fur et à mesure que nous prêchons, il y a des boucs qui rentrent parmi les brebis. C'est à nous d'être fidèles par ta grâce, de venir annoncer l'évangile de ton Fils, cette doctrine qui lui donne toute la gloire, de ne pas compromettre, quels que soient les dires. Seigneur et frère, j'ai l'occasion de prêcher dans les milieux où tu les as placés, comme pour moi ici, que tu nous gardes fidèles à cette parole, à Christ qui est la parole, à son œuvre qui a satisfait ta justice entièrement, les pécheurs que toi-même tu choisis. Christ est mort et dans le temps tu appelleras par ta grâce. Bien frère, à la prochaine. Je vais vous envoyer par email l'adresse pour aller sur l'internet et pour pouvoir réécouter si vous voulez, parce que toutes ces séances sont enregistrées et je suis en train de les poster sur l'internet. Donc s'il y en a qui sont peut-être dans ton assemblée ou dans tes milieux que tu veux faire réécouter ces enseignements.
C'est ça.
Tout est déjà, enfin, c'est enregistré, c'est à l'internet. Je vais vous envoyer ces adresses-là et vous pouvez facilement réunir d'autres et puis jouer ça comme si c'était un enregistrement ou bien, revisiter ça vous-même et se préparer pour notre prochaine séance.
D'accord. Et, merci beaucoup que le Seigneur vous bénisse.
Vous êtes toujours dans mes prières et dans mon cœur et que le Seigneur vous bénisse.
Amen.